7 au 10 septembre, rue Saint-Denis, dans le quartier des spectacles, OOMPH, le festival de la rentrée, en collaboration avec les microbrasseries 3 Brasseurs, te propose 4 jours de musique, humour, art de rue, sport et plus encore. Voyez gratuitement DJ Jazzy Jeff, Low Larry Adjust, Marie-Pierre Arthur, La Bronze, Hidalgue, Brown, John Jacob Magistery et une tonne d'autres artistes. Vivez l'expérience festival maximale avec le bracelet exclusif OOMPH en 360. Détails et horaires sur OOMPH.ca.
Croyez-vous que les médias ont une part de responsabilité dans votre défaite?
Pas du tout. Les médias ont toujours raison. Les médias ont toujours raison.
Bonjour à tous nos auditeurs, bienvenue à La Photo Média, cette toute nouvelle émission en compagnie de votre animateur Émilien Roscanou. Aujourd'hui, comme chroniqueur, on a les deux Francis, Francis Huot et Francis Terrien, ainsi que Camila Rodriguez-Ca. Bonjour à tous.
Salut Émilien.
Donc ce soir, on va vous parler de plusieurs sujets, c'est la rentrée qui s'amène. Donc premièrement, notre émission va changer d'horaire à partir de pas la semaine prochaine parce qu'on est en congé le lundi, mais la semaine suivante, notre émission va commencer à 17h30, de 17h30 à 18h les lundis. Donc merci de nous suivre et de vous adapter comme nous, on a dû s'adapter.
Pendant que vous faites le souper, écoutez-nous, ça va mettre l'ambiance.
Donc aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets. On va parler de réforme démocratique, on va parler de la CAQ qui fait parler d'elle, et on va aussi parler du salaire minimum à 15$. Donc tout de suite, on va commencer. Francis, un des sujets qui retiendra certainement l'attention cet automne, c'est justement la question du salaire minimum.
Oui, exactement, Émilien. Depuis quelques mois, de plus en plus de groupes de la société civile, des citoyens et des citoyennes, et même certains partis politiques réclament une hausse progressive du salaire minimum à 15$ de l'heure. On serait quand même porté à croire que la question sort un peu de nulle part parce qu'au Québec, la question du salaire minimum occupait peu ou carrément pas l'espace médiatique. Mais ça fait quelques années quand même que la question est débattue un peu partout à travers l'Amérique du Nord. Il y a l'État de New York et la Californie, par exemple, qui prévoient d'augmenter graduellement leur salaire minimum à 15$ de l'heure pour 2021. Et l'Alberta aussi qui va augmenter son salaire minimum à 15$ de l'heure pour 2018.
Wow, je le savais même pas moi-même.
Ouais, moi non plus. En faisant ma recherche hier, j'ai découvert ça.
Mais Seattle aussi, non?
Oui, c'est déjà... ça. Il y a des villes individuellement aux États-Unis qui ont décidé d'augmenter leur salaire minimum. Seattle, puis je pense qu'à New York aussi, pour certains employés dans la restauration rapide, je pense, mais il y a les États vraiment de New York et de la Californie qui ont pris un engagement.
Oui, c'est quand même fou que l'Alberta prévoit augmenter le salaire minimum ouais. énormément avant le Québec. Mais si le Québec optait pour cette voie-là, il suivrait en quelque sorte une certaine tendance quand même en Amérique du Nord.
Oui, exactement. Puis au Québec, l'idée était défendue au début par... depuis plusieurs années déjà, par des groupes dont on s'attend un peu qu'ils soient pour une amélioration des conditions de vie des travailleurs et des travailleuses. Donc les syndicats, QS, les organismes communautaires, etc. Mais depuis plusieurs mois, la mobilisation autour de la hausse du salaire minimum à 15$ de l'heure a atteint un autre niveau. La FTQ a lancé une vaste campagne de sensibilisation pour faire la promotion de la hausse du salaire minimum. La campagne s'appelle « Minimum 15$ ». Il y a d'ailleurs beaucoup d'informations vulgarisées sur le site web qu'ils ont créé et qui est dédié à la campagne, qui s'appelle « minimum15.québec ». Entre autres, une section « Mythes et réalité » qui est quand même assez intéressante et assez vulgarisée. Il y a aussi la CSN qui milite beaucoup plus activement depuis quelques mois pour la hausse du salaire minimum à 15$ de l'heure. Et du côté des partis politiques, il y a QS qui en a fait de la hausse du salaire minimum à 15$ de l'heure un, et je cite, « dossier prioritaire ». En fait, je cite TVA Nouvelles qui a dit que QS a fait de la hausse du salaire minimum un dossier prioritaire. Et de façon un peu plus surprenante, il y a le PQ qui a pris un engagement ferme pour la hausse du salaire minimum à 15$. Donc, il reste juste à voir si les bottines vont suivre les babines si un jour ils reprennent le pouvoir.
Puis Francis, il y a quand même eu des appuis assez notables, comme celui de l'homme d'affaires assez connu, Alexandre Taillefer.
Oui, c'est ça. Alexandre Taillefer avait dit, sur le plateau, tout le monde en parle, si je me trompe pas, qu'il était favorable à une hausse du salaire minimum à 15$ de l'heure. Ensuite, un peu plus tard, cet été, dans le cadre du Forum social mondial, il était revenu à la charge en participant comme panéliste à un atelier organisé par la FTQ, dans lequel il faisait la promotion de la hausse du salaire minimum à 15$ de l'heure. Donc ça, c'est en plus du fait qu'il paie ses employés, les employés de son entreprise Théo Taxi, à un salaire fixe de 15 $ de l'heure, quand on sait que les chauffeurs de taxi qui travaillent à leur compte ou pour d'autres compagnies de taxi ont un taux horaire qui est beaucoup moins élevé que le salaire minimum.
Oui, puis on en a beaucoup parlé à l'émission
oui,
déjà.
Puis finalement, il a tweeté pas plus tard qu'hier, et je cite, « Si une entreprise ne peut survivre qu'en payant ses employés sous le seuil de la pauvreté, mérite-t-elle d'exister? Je suis loin d'en être sûr. » Donc, de la façon dont j'interprète les interventions publiques d'Alexandre Taillefer, il est rendu au stade où on pourrait dire qu'il milite activement pour la hausse du salaire minimum à 15 $ de l'heure. Puis là, je veux pas faire l'apologie d'Alexandre Taillefer, mais c'est un homme d'affaires qui a connu beaucoup de succès. Puis il a une très bonne visibilité médiatique, notamment à cause de son passage à l'émission Les Dragons. Donc, le fait qu'il appuie une hausse du salaire minimum, ça donne beaucoup de crédibilité, je pense, à cette mobilisation-là. Étant donné qu'on sort un peu du cadre habituel syndicats, partis politiques, groupes communautaires.
Les gauchistes du plateau.
Ouais, c'est ça. Là, c'est un homme d'affaires qui revendique ça.
Oui, c'est quand même un appui assez exceptionnel.
Mm-hmm.
Les pressions faites commencent à trouver un écho même chez les libéraux.
Oui, c'est ça. C'est là où je voulais en venir. Depuis que je pense que l'élément déclencheur, ça a été quand Québec solidaire a relayé à l'Assemblée nationale le débat sur la hausse du salaire minimum à 15 $, les choses ont commencé à se bousculer assez rapidement. Le ministère du Travail du Québec a annoncé il y a quelques jours qu'il planche sur un plan pluriannuel de hausse du salaire minimum. Donc, il s'agit d'un plan à long terme courant sur plusieurs années dans lequel des augmentations plus importantes que celles accordées dans les dernières années pourraient apparaître. Donc, dans les maisons, on parle souvent d'un chantier sur le salaire minimum. Donc, on va voir ça va être quoi les résultats, mais ça va être quand même intéressant de voir comment le débat va évoluer parce que c'est passé en moins d'un an d'un projet complètement utopique à quelque chose que le Parti libéral est prêt à considérer, donc quand même une bonne évolution.
Puis j'imagine que la couverture médiatique accordée à la hausse du salaire minimum à 15 $ de l'heure n'a rien à voir là-dedans.
Non.
Merci beaucoup, Francis.
Merci.
Donc maintenant, on se tourne vers Francis Therrien cette fois-ci. Dans la dernière campagne électorale, Justin Trudeau avait promis qu'il s'agirait de la dernière élection avec le mode de scrutin actuel, c'est-à-dire le système uninominal à un tour. Maintenant que le top modèle Trudeau est devenu notre premier ministre, où est-ce qu'on en est rendu dans ce dossier-là?
Ben, on avance, Émilien, on avance. Aujourd'hui même, en fait, il y avait des consultations faites par le comité spécial sur la réforme électorale. J'en expliquerai la constitution de ce comité-là plus tard. Donc, on est rendu où il y a un comité parlementaire à Ottawa qui travaille sur la question de la réforme électorale, donc du mode de scrutin. Mais comment on s'est rendu, en fait, c'est que dès l'élection du premier ministre Justin Trudeau, il a donné dans la lettre de mandat, ça avait été publié là, parce que c'est la première lettre de mandat de l'histoire des ministres qui était rendue publique, à la ministre des Institutions démocratiques, Marianne Monsif, le mandat de réformer le mode de scrutin. Puis, dans le discours du trône, aussi, en décembre 2015, il y a eu l'information que le mode de scrutin allait effectivement être modifié. Puis là, récemment, le 11 mai dernier, la ministre Monsif a annoncé la mise sur pied d'un comité parlementaire, donc le comité dont je parlais, qui, son mandat est d'étudier les diverses façons de réformer le mode de scrutin et de faire une recommandation d'ici le 1er décembre. Donc, le comité spécial travaille depuis maintenant le 21 mai, il y a eu 22 séances de ce comité-là jusqu'avant celle d'aujourd'hui. Puis au départ, le comité était un peu controversé parce qu'il y avait une représentation majoritaire des libéraux sur le comité. Puis la critique était, vous voulez rendre le système proportionnel ou en tout cas plus proportionnel, puis vous utilisez exactement le système actuel pour choisir le nombre de sièges qu'il y avait autour.
Être conséquent.
Exactement. Puis ben, ça a été corrigé finalement. Mais donc c'est moins controversé, c'est un comité qui semble en faire l'unanimité. Tous les citoyens, tous les groupes sont invités à comparaître aux audiences du comité en s'inscrivant sur le web ou encore à être consultés d'une façon ou d'une autre. Puis c'est ça, on est rendu à l'étape où les gens déposent des mémoires. C'est là où on est rendu maintenant.
J'ai hâte de voir comment ça va s'articuler tout ça. Mais comment se positionnent les autres partis par rapport à ça? Est-ce qu'ils voient d'un bon œil l'arrivée d'un changement dans le mode de scrutin?
Mais en tout cas, personne n'a boycotté le comité, ce qui ça arrive jamais, mais bon, en tout cas, peut-être que les conservateurs l'auraient fait, mais Ce qui est commun, c'est que tous, mis à part les Verts et les libéraux qui sont au pouvoir, évidemment, ont critiqué le processus. Les conservateurs n'ont pas de position claire, mais ils exigent un référendum sur la question. C'est tout ce qu'ils demandent depuis sans cesse. Peu importe de quoi on parle, disons, on veut un référendum.
Un référendum à la population, c'est-à-dire?
Oui, un référendum, ben...
Tous les citoyens seraient amenés à voter sur le changement de modèle de scrutin.
Exactement. Ce qui fait dire à certains observateurs qui défendent le statu quo sans en avoir l'air parce que ça serait impopulaire. Mais il y a certains observateurs qui pensent que c'est à leur avantage de préserver le statu quo, donc ils veulent pas que le mode change. Puis on l'a vu par le passé, lorsqu'il y a un référendum, souvent la population manque d'informations, puis craint la confusion, donc vote contre. Puis au Canada, toutes les réformes de scrutin, les tentatives en tout cas, ont échoué.
Surtout dans un domaine aussi compliqué qu'un mode de scrutin, parce que ça serait proportionnel,
préférentiel.
Il y a plein de possibilités, c'est compliqué, peut-être compliqué d'une manière différente, mais de la même manière que la séparation, disons, du Québec, tous les référendums ont leur lot de spécificités qui demandent beaucoup d'informations.
Puis, surtout que sur la consultation en tant que telle, il n'y a eu vraiment pas beaucoup d'informations qui ont été facilement disponibles. Donc, en tout cas, j'imagine pas ce que ça va être quand le mode de scrutin va être décidé.
Ben, mais en tout cas, les conservateurs, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est un référendum, selon plusieurs, pour pas que ça passe. Le Parti vert, tant qu'à lui, est en faveur de ce qui se passe, comme je le disais. Les néo-démocrates veulent un vote proportionnel, tandis qu'ils croient que les libéraux, ce qu'ils veulent, c'est un vote préférentiel, donc de choisir 1, 2, 3, 4, 5, les candidats que les gens préfèrent.
Oui.
Puis le Bloc québécois, un peu comme le Parti conservateur, exige un référendum, sauf qu'eux, en plus, ils critiquent le fait que, parce qu'il y a eu des consultations qui sont passées cet été, où il y en a qui vont se passer encore, qu'il n'y a aucun financement qui était lié à ça, puis ils disent qu'il manque d'argent avec leurs, je sais pas, 4 députés à la Chambre des communes.
Non, 10.
10?
Oui.
OK, c'est... Ouais. En tout cas, leurs peu de députés à la Chambre des communes. Fait que ça, c'est la position des partis... en ce moment.
Puis dans tout ça, est-ce qu'il y a un blâme à faire sur les médias, le travail des médias, est-ce qu'il devrait être amélioré parce qu'on n'en entend pas tant parler?
Ben c'est justement là où j'allais avec cette idée-là, c'est que on est à la faute aux médias, donc il y a une faute à y avoir aux médias, puis cette fois-ci c'est...
C'est encore leur faute.
Ouais, le manque de couverture, ben le peu de couverture médiatique qui a accordé à un sujet aussi important. Tantôt, je regardais, dans les 30 derniers jours, il y a eu 633 produits médiatiques, si on veut, donc des écrits, radio, télé sur la réforme électorale en anglais au Canada, 125 en français, puis juste pour la comparaison, pour le mot cycliste, il y a eu 958 produits médiatiques en français, puis ben 657 en anglais pour le mot cycliste. Donc, sur la couverture, en français, probablement, est plus variée, plus pertinente, plus approfondie de ce que j'ai regardé. En anglais, il y a vraiment beaucoup d'opinions, surtout faites par des tenants du discours conservateur. Alors qu'en français, c'est moins présent. Une combinaison de gens favorables et défavorables dans la couverture. Puis, bon, en fait, aussi au Québec, il y a beaucoup plus d'écho des travaux en chambre. Le 30 août, il y avait Ed Broadbent qui a pris position pour un proportionnel parce qu'il dit que ça défendrait l'unité nationale. Au Canada anglais, même étonnamment, il y a presque pas eu de couverture. Puis au Québec, tous les médias, même Acadie Nouvelle, pas au Québec, mais en Nouveau-Brunswick, l'a repris, tu sais.
Oui. Donc,
on voit que l'intérêt est différent, mais
je pense qu'il y a peut-être peu d'intérêt médiatique, mais je pense que le gouvernement, tu sais, tous les élus, tout parti confondu, font comme peu d'efforts quand même pour que cet enjeu-là soit comme dans les médias, parce que comme, tu sais, juste, on regarde les consultations, comment ça se déroule, c'est un peu broche à foin, là. Chaque député est comme un peu laissé à lui-même. Il organise des consultations. Tu sais, il y a pas de vision globale, je trouve, autour de la consultation, puis de...
Ouais, puis l'impact que ça a, c'est qu'il y a 19% des répondants à un sondage Ipsos qui ont dit qu'ils étaient au courant que les consultations étaient commencées. Donc, personne sur 5 au Canada est au courant que c'est commencé. Puis, il y a 16%, il y a 68% qui savent que c'est un... cet enjeu-là est traité en ce moment, comme en général. Donc, 68% des gens savent qu'il va y avoir une réforme électorale, mais seulement 20% savent que c'est commencé les travaux. Donc, il y a clairement un manque de couverture médiatique. Puis, fait intéressant aussi, 55% des Canadiens se disent en faveur d'un référendum, seulement 40, donc 45% sont contre. Au Québec, ailleurs au Canada, c'est tout partout, tout...
toute allégeance.
Ouais, toute allégeance confondue, tout âge confondu, les gens sont pour un référendum. Alors qu'au Québec, c'est tout le monde est contre.
Les gens parlent de référendum au Québec.
On dirait.
On dirait. Ben, merci beaucoup, Francis.
Ça fait plaisir,
merci. On va se laisser en chanson quelques petites minutes avec Wait Up de Roosevelt. C'était Wait Up de Roosevelt. Vous écoutez toujours choc.ca, l'émission de la faute aux médias, et en compagnie de votre animateur, Émilien Roscanou, toujours à l'antenne. Donc maintenant, nous allons avec la troisième et dernière chronique, mais non la moindre, celle de Camila Rodriguez CA. Donc, on a beaucoup entendu parler du burkini dernièrement au Québec. Dans un premier temps, on a reçu les échos de la France, où certaines municipalités ont tout simplement interdit cette espèce de mélange de wetsuit et de voile musulman pour la baignade. Dans un second temps, lorsque le débat a été recyclé au Québec par certains politiciens, Camilla, tu t'es penchée sur la question.
Absolument, mais je sais pas pour vous, mais moi, quand un débat devient trop identitaire, j'ai tendance à décrocher, surtout quand je peux décrocher, c'est-à-dire quand le débat se passe à l'étranger. En un coup d'œil aujourd'hui, pour reprendre ce que j'avais perdu, j'ai vu que même le Haut Commissariat de l'ONU, j'allais dire des États-Unis, qu'est-ce que je dis, avait qualifié l'interdiction du burkini de stupide réaction aux attentats terroristes, autrement dit. Donc, ce refus de ce qui est différent et ce repli sur soi serait une réaction de peur, simplement.
Et c'est pas juste les Français qui ont peur.
Absolument pas. Le phénomène de peur généralisée envers les musulmans en général, je pense, ou les Arabes de façon plus générale, qui, soit dit en passant, se traduit très bien dans le mot islamo-phobie, est courant en Occident, le Québec ne faisant pas exception à la règle. C'est parfois difficile de voir la peur derrière la haine, mais elle est bel et bien présente. Nathalie Roy de la coalition Avenir Québec, la CAQ, avait annoncé que son parti interdirait le port du burkini la semaine passée au Québec, même s'il n'y a jamais eu aucun problème avec le burkini au Québec. Et son chef de parti, François Legault, a pour sa part affirmé qu'il ferait passer un test de valeur aux nouveaux arrivants qui demanderaient leur citoyenneté. Dans ce test, on demanderait aux gens s'ils sont en accord ou pas avec le principe d'égalité entre les hommes et les femmes.
Est-ce qu'il le passerait?
François Legault, je pense pas qu'il passe.
Je suis pas certaine, mais même au-delà de ça, j'aimerais savoir si quelqu'un répond non à cette question, est-ce qu'il mérite d'avoir ses citoyennetés juste en termes d'intelligence, comme non, moi je pense pas, je suis pour la lapidation, acceptez-moi. Pas certaine que quelqu'un va dire ça.
Même ceux qui sont pas pour le principe autant que d'autres diraient qu'ils le sont.
Dire oui. Exactement, on sait qu'il faut dire oui, puis on joue avec quelque chose de dangereux. Parce qu'on ne peut pas être contre la vertu.
Évidemment.
Mais est-ce que le test demanderait, est-ce que vous êtes pour l'égalité homme-femme ou, par exemple, est-ce que vous êtes pour le port du burkini? Puis là, ça sous-entendrait que tu serais contre l'égalité homme-femme.
Ça non. Serait hyper tendancieux.
C'est plutôt le contraire. C'est êtes-vous pour ou contre l'égalité homme-femme? Et donc, ça sous-entendrait, est-ce que tu portes ou pas un burkini?
Oui, mais là, burkini, ensuite, on va critiquer le niqab, on va critiquer... plein d'autres tenues vestimentaires.
On peut critiquer François Legault qui utilise sa femme comme une potiche pendant les conférences de presse.
J'y viens.
François Legault qui discute avec Vincent Marissal sur Twitter et qui lui dit que, bon, les femmes ne s'intéressent pas autant au salaire que les hommes pour justifier une de ses sorties.
Breaking news, ça m'intéresse, moi. En tout cas.
Personne ne va dire que l'égalité des genres n'est pas importante, jamais.
Non, absolument. Puis le problème, c'est que, justement, en ce moment, il n'y a pas de débat sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Ce débat, bien que Legault aimerait le cacher derrière une valeur fondamentale québécoise, n'est pas un débat sur l'équité. Si la CAQ était vraiment féministe, elle prendrait position, par exemple, sur l'inégalité salariale, sur les emplois précaires que les femmes occupent plus souvent que les hommes et proposerait des solutions qui amèneraient plus d'élus et plus de femmes en politique et à l'Assemblée générale, pour ne citer que les problèmes les plus mainstream, ouais, les plus apparents. Puis d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, une enquête du magazine L'Actualité révélait ce matin que, toutes proportions confondues, les femmes prononcent 30% moins de mots que les hommes à l'Assemblée nationale, ce qui ne fait qu'exacerber leur nombre déjà inférieur à celui des hommes. Et la proportion devient de plus en plus inquiétante quand on s'attarde aux mots prononcés par les membres du cabinet ministériel, parce que, en effet, les ministres féminines interviennent 122% moins de fois que leurs homologues masculins.
On pourrait faire la blague que les femmes ouvrent, les femmes interviennent quand c'est important, alors que les hommes un peu moins, mais bon.
Je suis pas certaine que je suis d'accord avec ta blague, Émilien, pour une simple raison, puis là je vais partir un peu de ma chronique, mais certains remettent en question le modèle même sur lequel est basée l'Assemblée nationale, parce que c'est un modèle de confrontation avec lesquels les femmes pour des raisons, là, on sait pas, là, de, d'essence ou de construction sociale, seraient moins à l'aise. Donc,
ça, c'est clair, ouais.
C'est une façon de fonctionner qui fonctionne moins bien, peut-être, pour les femmes. Puis, j'ai jamais entendu François Legault, justement, se plaindre ni dénoncer cette situation-là. François Legault, celui qui appelle Julie Snyder la femme de l'autre, et qui, comme Francis l'a soulevé tout à l'heure, aime bien avoir sa femme à ses côtés pendant les élections, mais en autant qu'elle parle pas trop. Ce François Legault, qui se prononce maintenant comme défenseur des valeurs d'égalité, s'il vous plaît, arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. Alain Dubuc écrivait dans la presse hier que François Legault a choisi son camp et décidé de façon claire et probablement irréversible d'inscrire la CAQ dans la mouvance populiste de droite qui, à travers le monde israélisé, se nourrit des angoisses identitaires et de la peur de l'autre, ce qui traduit, à mon sens, totalement la situation.
Merci beaucoup, Camilla.
Merci à toi.
Bon, très rapidement, en fin d'émission, Francis, tu nous as préparé un petit calendrier de ce qui nous attendait à l'automne en politique.
Ouais, ben en fait, j'ai sélectionné un événement qui peut être le début de quelque chose, la fin de quelque chose, ou un événement simple par mois qui s'en vient jusqu'en décembre. Donc, pour commencer, septembre, c'est le mois qu'on vient d'amorcer. Il y a la course à la chefferie de Projet Montréal, qui commence le 5 septembre prochain. Commence exactement le 5 septembre prochain, et on saura tous les candidats qui sont dans la course le 15 octobre. Ensuite, l'élection le 4 décembre. Donc, octobre, il y a l'élection de la ou du chef du Parti québécois qui va avoir lieu exactement le 7 octobre dans un lieu à déterminer. Donc,
ça s'en vient vite, hein?
Mais ça s'en vient vite. J'espère qu'ils ont loué une grande salle quand même.
Ouais.
Mais bon, en tout cas, ça c'est pour octobre. Novembre, les élections présidentielles états-uniennes. Donc, Trump pourra devenir président le 8 novembre prochain à la suite du scrutin.
Oh my God.
Au grand plaisir de François Legault. et en décembre, c'est ma fête le 12.
Oh! Gros événement.
C'est aussi la mienne le 21. Faut-il le dire.
Les chiffres inversés, c'est incroyable. Mais oui, donc en décembre, il y a la fête d'Émilien et moi. Le reste de la politique, on s'en fout.
Mais on pourrait demander à Trump et à Legault de vous faire une petite bonne fête, un petit coucou. Je pense que ça serait... Je veux dire, on parle même de François Legault dans notre jingle d'émission. Là.
Mais j'aimerais mieux Justin Trudeau en chess qui sort d'un gâteau. C'est pas ça.
Ce serait incroyable.
C'est noté.
Plus sérieusement, je vous invite à surveiller les activités de l'enquête sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, parce qu'on sait que ça se termine à la fin de 2018 sur le site web de la commission, mais entre-temps, on n'a aucune idée des activités qui vont se dérouler, ni de leur date. Donc, il faut surveiller parce qu'on ne saura pas sinon. Mais Trudeau l'a annoncé en grande pompe. Et aussi le début des petits cadeaux donnés par Couillard pour qu'on le réalise en 2017.
Ouais.
Parce que ça s'en vient. Octobre 2017, dans un an à l'avance, on commence les annonces de subventions pour faire oublier le bilan désastreux des dernières années.
Donc, tout ça, c'est à suivre cet automne. Donc, encore une fois, je remercie mes chroniqueurs Camilla Rodriguez-Séa, Francis Terrien et Francis Ciott. Merci beaucoup d'avoir été à l'émission.
Merci.
C'est un plaisir.
Plaisir.
On se quitte maintenant en chanson avec « Apprendre à mentir » de Lydia Kipinski. Encore une fois, c'était Émilien Roscanou. Vous écoutez La Photo Média.
Je pourrais te dire que tes parents